Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'assassinat d'Hélène Pastor. Le 6 mai 2014, cette femme, riche héritière d'un magnat du BTP monégasque, à la tête d'un empire immobilier de plusieurs milliards d'euros, est assassinée en pleine rue à Nice, avec son chauffeur. Témoins et caméras laissent peu de place au doute. Il s'agit d'une attaque ciblée, d'une exécution. L'événement plonge la principauté dans la stupeur et l'effroi, car les Pastor sont une famille historique du Rocher. Au bout de quelques semaines, les principaux suspects sont arrêtés et leur identité surprend en même temps qu'elle bouleverse. Derrière les dorures du palais des Grimaldi, sous le soleil de la Méditerranée, à l'ombre des buildings de haut standing, cette stratégie nous plonge dans les coulisses d'un Monaco loin de l'image véhiculée par les médias, décor glamour voulu par la famille princière. Ainsi, l'affaire Pastor invite-t-elle à s'interroger sur les dessous de cette principauté plusieurs fois centenaire, dont le statut d'exception et les relations avec l'État français interrogent. L'affaire Pastor sera jugée au début de l'année prochaine. Nous relaterons donc ici les événements tels qu'ils se sont passés à partir des conclusions des enquêteurs et du dossier d'instruction. Et rappelons bien sûr que les suspects sont présumés innocents. En seconde partie d'émission, nous recevrons Hélène Constanti, journaliste et documentariste. Elle est l'auteur d'un dossier sur cette affaire dans la revue Dessinée, parue à l'automne 2016. Elle prépare aussi une bande dessinée sur le sujet. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonhomme, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Mardi 6 mai 2014, hôtel de l'Archer à Nice. Comme chaque jour depuis plusieurs mois, Hélène Pastor, héritière de la famille du même nom et milliardaire de 77 ans, passe voir son fils, Gildo Palanca Pastor, 47 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé hémiplégique et partiellement aphasique. Gildo, c'est un peu l'original de la famille Pastor. Alors que tous ou presque dans la célèbre dynastie, sa mère, sa demi-sœur, ses cousins travaillent dans le bâtiment ou l'immobilier, ce proche du prince Albert consacre la part de sa fortune à des projets singuliers sans être pour autant délirants. Ici, une radio locale, là, un restaurant. Et surtout, cette idée qui lui tient à cœur. Passionné de sport automobile, il est depuis peu propriétaire du constructeur français Venturi. Et avec le soutien de l'acteur Leonardo DiCaprio, il veut lancer d'ici un an le premier championnat de Formule 1 électrique. Un brin playboy, reconnu pour son intelligence et son inventivité, son accident de santé a mis un coup d'arrêt à ses ambitions, bien sûr. Pendant sa convalescence, sa mère vient le soutenir. Elle doit aussi s'assurer que l'accident de son fils et son indisponibilité ne vont pas enterrer ses investissements pour sa course de voiture. Il est 19h ce 6 mai 2014 lorsque Hélène Pastor rend une dernière visite à son fils, lui dit au revoir et sort de l'hôpital. Sur le parking, elle retrouve son chauffeur qui est aussi son majordome depuis des années. Mohamed Darwish, 64 ans, l'attend, comme tous les jours, près du monospace aux vitres fumées. Il lui ouvre la portière, Hélène s'installe à ses côtés, la voiture démarre. Au même moment, sur le trottoir d'en face, un homme aux aguets fait un signe à un autre, placé derrière le mur qui jouxte le portail du parking. Son visage est en partie caché par une casquette, il porte un gros sac de sport. Tout à coup, il sort un fusil de chasse, bondit vers la voiture qui s'engage doucement sur la route et tire une première fois du côté d'Hélène Pastor. La cartouche de chevrotine fait exploser la vitre, les éclats touchent la femme et le chauffeur. L'homme se penche dans l'habitacle et tire une seconde fois. Rejoint par son complice, les deux individus s'enfuient à pied. Le monospace attaqué continue sa route sur quelques mètres, puis s'arrête, bloqué par un muret. Quelques heures plus tard, l'annonce de la fusillade s'invite au journal du soir.
On revient à l'une des actualités de ce début de soirée, je vous en parlais tout à l'heure, cette fusillade devant un hôpital à Nice. Bonsoir Olivier Théron, vous êtes notre correspondant sur la Côte d'Azur et vous avez des précisions.
Et bonsoir, bien une violente fusillade s'est déroulée en début de soirée devant l'hôpital Larcher à l'ouest de Nice. Plusieurs personnes seraient blessées. On ignore encore les identités des victimes, ni même les raisons de cette attaque soudaine organisée a priori. Selon des sources policières, plusieurs personnes, les agresseurs donc, seraient en fuite. Autour de l'hôpital, c'est la cohue actuellement. C'est très difficile d'avoir des informations précises. Le procureur de la République ne donne pour l'instant, lui, aucune information. Nous en saurons plus d'ici quelques minutes, en tout cas, on l'espère.
Devant l'hôpital de l'Archer à Nice, c'est l'effroi. Les dizaines de témoins qui ont assisté à la scène sont sous le choc. Les secours arrivent sur les lieux et constatent la gravité de l'état dans lequel se trouvent les deux victimes. Elles sont amenées directement à l'hôpital Saint-Roch pour être opérées en urgence. La première décharge de chevrotine a atteint Hélène Pastor au thorax, au cou et à la mâchoire. La seconde a touché Mohamed Darwish au cœur et à l'abdomen. Après plusieurs heures dans la salle d'opération, ils sont encore en vie. Pour les chirurgiens, c'est un miracle vu l'étendue des blessures, mais ils préviennent. Pour les deux patients, le pronostic vital est toujours engagé. Pendant ce temps, sur les lieux de la fusillade, les policiers commencent leur premier repérage. Il leur faut peu de temps pour comprendre qu'il s'agit d'un guet-apens, d'une attaque ciblée. Mais oui, et contre qui? L'héritière ou le chauffeur? Une information judiciaire est ouverte pour tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs. L'affaire est confiée à la PJ de Marseille. Les enquêteurs commencent à recueillir les témoignages. Ils récupèrent les caméras de vidéosurveillance, relèvent les éléments matériels. Enfin, Gildo quitte l'hôpital sous protection policière et rejoint Monaco. L'annonce de l'attentat contre Hélène Pastor secoue un rocher où les faits divers de ce type sont rares. Certes, c'est à Nice qu'a eu lieu la fusillade, mais c'est bien à une résidente monégasque que l'on s'est attaqué, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'héritière et descendante de l'une des plus célèbres familles de la principauté. D'ailleurs, le prince Albert s'empresse de publier un communiqué le soir même pour assurer son soutien aux familles des victimes. Les enquêteurs, eux, se concentrent d'abord sur le profil des personnes visées. Du côté d'Hélène Pastor, le patronyme se confond avec l'histoire du célèbre rocher, notamment d'un homme, son père, qui lui aussi s'appelle Gildo, et lui, c'est le roi du béton à Monaco.
Vous n'avez pas l'impression de faire un peu de l'urbanisme sauvage? Lorsqu'on regarde Monaco...
Je n'ai pas cette impression. Le prince veille à la question parce qu'il a renforcé ses services d'urbanisme. Donc, voyez-vous, un projet maintenant, il faut qu'il soit conforme à l'ordonnance souveraine. On a l'air de dire qu'on construit Manhattan, ceci, cela, il y a beaucoup de critiques qui s'élèvent. Ce n'est pas vrai du tout. Et je trouve qu'il faut mettre quand même au moins 10 000 habitants de plus à Monaco. Il faut les mettre quelque part, car notre territoire ne nous permet pas de les mettre en sous-sol. Alors, c'est assez bien étudié et nous aurons un Monte Carlo digne de l'an 2000.
Cette interview, qui date du milieu des années 70, est réalisée sur le toit de l'un des nombreux gratte-ciel qui surgissent depuis plusieurs années sur le fond de mer monégasque. Image d'un homme face à son empire. C'est le père de Gildo Pastor, Jean-Baptiste Pastor, qui à la fin du 19e siècle entame l'irrésistible ascension de la famille sur la principauté. Comme de nombreux Italiens, ce maçon originaire de Ligurie travaille sur les chantiers. En 1936, le prince Louis II lui confie la construction du stade de football de la principauté. Acte fondateur, les deux familles ne se quitteront plus. Après Jean-Baptiste et Louis II, c'est au tour de Gildo et Régnier III de poursuivre l'idylle. Entre le prince bâtisseur et le promoteur immobilier, s'ouvre un véritable âge d'or. Monaco, cet état confetti d'à peine 2 km², devient la destination favorite des stars et des milliardaires. Le cadre, mais surtout les avantages fiscaux, aucun impôt sur le revenu ni droit de succession favorise cet engouement avec un Graal, celui de titre de résident. Soutenu par le prince, Gildo Pastor achète la plupart des terrains les plus en vue et obtient le droit de construire des immeubles de 10, 20 ou 30 étages. Avec un coup de génie, ne jamais céder au titre de propriété, non. Gildo ne vend pas, il loue. Et vu que la rareté provoque l'inflation, puis la spéculation, il encaisse bientôt les loyers les plus chers du monde. À la mort de Gildo en 1990, la famille Pastor se scinde en 3 branches. Victor, le fils aîné, hérite de l'entreprise originelle et poursuit l'activité principale du groupe, l'achat des meilleurs terrains et la construction toujours plus haute. Michel, le second et le plus connu, s'occupe de restaurer, lui d'entretenir et de gérer le parc immobilier. Il est aussi célèbre pour avoir été un temps président du club de football de Monaco. Enfin vient Hélène, la plus discrète, inconnue du grand public. Elle n'héritait que, façon de parler, de quelques immeubles dont elle se contente de gérer et d'encaisser les loyers. Après le décès de son frère Victor en 2002, puis de Michel en février dernier, elle est la dernière représentante de cette génération qui a fait fortune dans la pierre. Alors, inévitablement, le profil de la femme pris pour cible ce 6 mai 2014 ouvre toute une série de suppositions.
Les enquêteurs travaillent majoritairement sur deux pistes. D'abord, bien sûr, la piste Monaco. Hélène Pastor, c'est l'héritière d'une grande famille Monaco, de Monaco qui pèserait 16 milliards d'euros, presque autant, ou voire plus que la famille princière. Alors, bien sûr, quand on fait fortune dans l'immobilier, on se fait des ennemis qui peuvent être très puissants. Il pourrait s'agir d'une vengeance. L'autre piste, c'est la piste du chauffeur. L'homme serait d'origine étrangère. Il travaillerait depuis plusieurs années comme majordome pour la famille Pastor. Il n'est pas connu des services de police, mais il pourrait être la cible d'un règlement de compte. Ce qui intéresse les enquêteurs, c'est aussi le mode opératoire. Les deux hommes étaient parfaitement renseignés. Il y avait un guetteur, un tireur. Ils savaient que Madame Pastor se rendait très régulièrement au chevet de son fils, Gildo Pastor, dans cet hôpital derrière moi. L'attentat était donc particulièrement bien organisé. Les deux hommes sont partis à pied. Ils avaient simplement le visage grimé. Et tout laisse à penser qu'il s'agit, eh bien, d'un contrat qui a été mis sur la tête, mais la tête de qui on ne sait pas et pour quel mobile on ne sait pas non plus. Les enquêteurs sont actuellement à la recherche de ces deux hommes qui sont en fuite et que l'on n'a toujours pas retrouvés.
Après de rapides recherches sur le parcours de Mohamed Darwish, les enquêteurs éliminent cette piste. Ils souhaitaient l'entendre, certes, mais l'homme succombe à ses blessures 4 jours après le drame, le 10 mai 2014. Hélène Pastor, dont le pronostic vital est toujours engagé, explique aux policiers qu'elle ne comprend pas. Non, elle n'a pas reçu de menace et surtout, elle ne se connaît pas d'ennemis. Pour les enquêteurs, maintenant, c'est certain, c'est bien elle qui était visée. Un indice, son sac à main, posé sur le tableau de bord, n'a pas été pris par le tueur alors qu'il était à portée de main. Un signe parmi d'autres qu'il s'agissait bien d'un contrat dont l'objectif était clair, éliminer Hélène Pastor. On interroge alors ses enfants, héritiers en cas de décès de leur mère, d'une fortune estimée à une dizaine de milliards d'euros. Forcément, s'ils ne sont pas mécaniquement suspects, il faut enquêter sur eux. À travers cette tentative de meurtre, visait-on le fils, Gildo, lui, l'iconoclaste des pasteurs, le seul à s'investir dans les affaires en dehors de l'immobilier, le seul à être médiatisé, l'ami du prince Albert? Embarqué dans un dossier compliqué, son tournoi de Formule 1 électrique pour lequel il avait dû chercher des investisseurs, peut-être a-t-il frayé avec des personnes ou des milieux au caractère, disons, trouble. Son accident l'a-t-il empêché de mener à bien ce projet? Et aurait-il reçu des menaces face à ce coup d'arrêt? Et puis son père, ex-mari d'Hélène, Claude Parlanca, est consul de Russie à Monaco. Alors, on pense un temps à la mafia russe impliquée sur le rocher et avec laquelle Gildo est peut-être en affaire. On se tourne aussi vers la fille aînée d'Hélène, Sylvia, demi-sœur de Gildo, issue d'une aventure de jeunesse d'Hélène. Sylvia Pastor partage sa vie avec Wojciech Janowski, consul de Pologne, à Monaco. Elle aussi est plutôt réputée pour sa discrétion, surtout connue pour ses engagements caritatifs. Sous le choc, la jeune femme ne voit pas, elle non plus, qu'aurait pu en vouloir à sa mère. Ces questions sont approfondies, éliminées, creusées, pendant que la traque des deux hommes se poursuit en coulisses. D'ailleurs, on n'a pas trop de mal à suivre leurs traces. Ils ont été repérés à plusieurs reprises sur les caméras de surveillance. Pourtant, les enquêteurs ne communiquent pas sur l'avancée de leurs recherches, car ils sont persuadés qu'en suivant la piste des deux agresseurs, ces derniers les mèneront tout droit au commanditaire, le B.A.B.A. Pendant ce temps, le 21 mai 2014, 2 semaines après la fusillade, tombe une nouvelle dramatique.
Dans l'actualité également, les derniers développements de ce guet-apens, toujours mystérieux, contre cette femme, Hélène Pastor, richissime femme d'affaires monégasque. C'était à Nice il y a 2 semaines, et bien on a appris sa mort ce matin. Elle n'a pas survécu à ses blessures, son chauffeur avait également été tué.
Depuis plusieurs jours, et au-delà des questions posées par le mobile du crime, les enquêteurs restent surpris par le mode opératoire. C'est certain maintenant, il s'agit d'un contrat exécuté par des tueurs à gages. Pour autant, ils sont surpris par l'amateurisme de la méthode. En plein jour, devant des témoins, le visage à peine grimé, sachant pertinemment que la ville de Nice est cernée par les caméras de surveillance, c'est quand même prendre beaucoup de risques. Et puis c'est en taxi qu'ils se rendent sur les lieux de l'exécution. L'arme utilisée également est surprenante, un fusil de chasse à canoncier, rarement choisi par les professionnels pour ce genre de crime. Non, décidément, les policiers restent perplexes quant au décalage entre le profil mondain de la victime visée et un mode opératoire bien loin des méthodes du grand banditisme ou de la mafia. Depuis le premier jour, ils épluchent les millions d'appels téléphoniques et les dizaines d'heures de caméras de vidéosurveillance. On retrace le parcours des deux hommes. Le jour du meurtre, ils prennent un train de Marseille à Nice. On les voit sur les quais de la gare de Thiers avant de retrouver leurs traces à l'hôtel Azur Riviera où ils ont pris une chambre pour la nuit. Puis ils arpentent l'avenue Jean Médecin en taxi jusqu'à l'hôpital. Après le crime, ils s'en vont à pied, montent dans un bus, puis prennent de nouveau un taxi pour rejoindre Marseille. Le chauffeur explique que les deux hommes ont passé leur trajet à changer les puces de leur téléphone portable. Le premier a demandé à être déposé à la gare Saint-Charles, le second au palais du Pharo. Puis l'un des deux s'est rendu à Rennes, où il a la famille. Le second, lui, est resté à Marseille, dans la cité où il habite. La PJ de Marseille explore donc deux pistes. D'un côté, les tueurs, de l'autre, le mobile à trouver dans l'environnement des victimes. Finalement, le 26 juin 2014, 6 semaines après la fusillade, cette nouvelle arrive.
Du nouveau dans l'enquête sur la mort de Hélène Pastor et de son chauffeur assassiné fin mai devant l'hôpital Larcher de Nice. Hélène Pastor, riche héritière d'un empire immobilier à Monaco. On a appris qu'une vingtaine d'interpellations venaient d'avoir lieu à Marseille. Les commanditaires présumés auraient été, eux, arrêtés à Nice. Le procureur de la République de Marseille doit tenir une conférence de presse demain après-midi sur cette affaire.
Parmi la victime de personnes, la vingtaine de personnes arrêtées ce jour-là, les enquêteurs en sont quasiment persuadés, se trouvent le tireur et le guetteur. Mais ce sont surtout deux noms qui retiennent l'attention. Sylvia Pastor, la fille d'Hélène, et Wojciech Janowski, son compagnon. Deux noms qui semblent privilégier la piste du drame familial. Mais pourquoi et comment? Des questions auxquelles vont essayer de répondre les enquêteurs alors que la garde à vue commence.
Éternel été, beauté à jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mai, l'effet du hasard,
l'effet du hasard,
ne le retiendra,
ne le retiendra,
parfois trop ardent.
Et les auditions se poursuivent à l'hôtel de police à Marseille où nous retrouvons en direct Jean-Louis Boudard. Bonjour Jean-Louis. Alors de nombreuses pistes ont été suivies par les enquêteurs, celles de la mafia russe, de la mafia calabraise, on a même parlé de crimes crapuleux, d'une histoire de vengeance ou même d'une affaire de racket. Au bout du compte, c'est plutôt la piste familiale qui semble privilégiée aujourd'hui.
Oui, effectivement, Annie, puisque dans cette affaire, vous l'avez dit, de nombreuses hypothèses ont été émises. Et c'est bien la piste du contrat familial qui semble émerger dans cette affaire avec ce véritable coup de théâtre. Vous l'avez dit, 19 personnes ont donc été interpellées à Marseille, à Nice et à Rennes, parmi lesquelles la propre fille et le gendre d'Hélène Pastor. La fille d'Hélène Pastor s'appelle Sylvia Radkowski-Pastor, elle a 53 ans et son mari n'est autre que Wojciech Janowski, 65 ans, c'est le consul général honoraire de Pologne à Monaco. Alors parmi les personnes interpellées figurent également des membres des communautés maghrébines et comoriennes, dont probablement le tireur et son complice. Ils sont soupçonnés d'avoir exécuté sur ordre la vieille dame de 77 ans.
Lundi 26 juin 2014, un mois et demi après l'assassinat d'Hélène Pastor et de son chauffeur Mohamed Darwish, la police judiciaire de Marseille procède aux interpellations. D'abord, des exécutants présumés, le tireur et le guetteur. Tous deux sont d'origine comorienne. Le premier s'appelle Samin Saïd Ahmed, il a 24 ans. Le second, Alaïr Ahmadi, 31 ans. Les deux hommes, issus des quartiers populaires de Marseille, sont connus des services de police pour vol et trafic de stupéfiants. Mais ils sont frayés avec la délinquance, ils n'ont jamais été mêlés à une affaire de grand banditisme. Or, les enquêteurs ont en leur possession de nombreuses preuves matérielles accablantes. Les deux hommes n'étaient pas masqués et ont été identifiés sur les images de vidéosurveillance. Plusieurs témoins assurent par ailleurs les avoir reconnus. Ensuite, un sac de sport, le même qui a servi à transporter l'arme sur les lieux du crime, a été retrouvé chez l'un d'entre eux avec plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'intérieur. Enfin, l'ADN de l'un des deux hommes a été relevé sur un flacon de gel douche dans l'une des chambres de l'hôtel où ils ont dormi la veille du crime. Alaïr Ahmadi avoue tout, en garde à vue. On lui a proposé, tout comme à son complice, la somme de 60 000 euros pour exécuter une femme et son chauffeur. Il ne connaissait rien de l'identité de la personne ciblée. Il pensait alors que le coup serait facile. Revenu à Marseille, on ne retrouverait pas leurs traces. Mal préparés, peu habitués à ce genre de contrat, les deux hommes ont été appâtés par l'argent, mais leur amateurisme les a rapidement rattrapés. Voilà pour les suspects exécutants. Écoutons maintenant les précisions du procureur de la République de Marseille, Brice Robin.
La volonté des enquêteurs et celle des magistrats instructeurs et du parquet également, c'est bien sûr de pouvoir identifier le ou les commanditaires de ces assassinats, ainsi que les intermédiaires ayant mis en œuvre ces crimes. À l'heure où je vous parle, des flux financiers suspects ont été repérés sur les comptes bancaires de M. Janowski, qui mérite des explications.
Effectivement, qui est Wojciech Janowski, le gendre d'Hélène Pastor? Cheveux poivre et sel, regard bleu profond, ce Polonais de 64 ans est une figure de la principauté monégasque. Celui qui partage la vie de Sylvia Pastor depuis plus de 20 ans, avec qui il a une fille, est depuis 2012 consul général honoraire de Pologne sur le Rocher. Président d'une entreprise de nanotechnologie, il est aussi connu pour sa fondation contre l'autisme, présidée par la princesse Charlène, ce qui lui a valu la remise de l'Ordre National du Mérite. Voilà pour le côté professionnel, un homme connu et reconnu, bien sous tout rapport. Pour l'intime, on le dit passionnément amoureux de sa femme, Sylvia Pastor, et tous ont en mémoire le soutien qu'il lui a apporté pendant son cancer. Alors, à l'annonce de son arrestation, certains proches n'en reviennent pas.
Depuis pratiquement 14 ans, M. Janowski a beaucoup aidé l'association, en général la communauté polonaise des Côtes d'Azur. Il y a de nombreuses personnes qui ont pu profiter de telle ou une autre occasion de sa générosité. En suivant des pique-niques polonais, des fêtes de Saint-Nicolas qu'on organise, avec cadeaux, spectacles pour les enfants.
Pendant 3 jours, Wojciech Janowski est interrogé par les policiers. Pendant 3 jours, il tient face aux enquêteurs qui le confrontent pourtant aux preuves évidentes de son implication. Les deux retraits d'argent liquide de plusieurs centaines de milliers d'euros, d'abord sur les comptes localisés à Dubaï, et il se trouve que cette somme correspond au témoignage des exécutants. Finalement, lors de sa 6e audition, acculé, Janowski passe aux aveux. « Oui, j'ai commandité ce meurtre, mais ce n'est pas dans ces termes que j'ai demandé à Doriac de résoudre le problème qu'était ma belle-mère en sous-entendant de l'éliminer physiquement. Ce n'était pas facile d'utiliser le mot « tuer », mais j'ai utilisé les mots qui pouvaient lui faire comprendre ce que je voulais. Pascal Doria, qui est cet homme ? Lui aussi a été interpellé le même jour qu'Elovski et que les exécutants du contrat. Cet homme de 46 ans est depuis 12 ans le coach sportif de Wojciech Janowski et de Sylvia Pastor. Trois fois par semaine, il leur donne des cours à domicile. Et entre eux, s'est nouée une relation de confiance. Wojciech Janowski raconte la suite. Il a donné 200 000 euros à Pascal Doriak. En échange, ce dernier devait organiser l'assassinat de sa belle-mère. Le coach sportif accepte et se tourne alors vers les quelques relations qu'il a à Marseille. Il demande à Abdelkader Belkatir, le frère de sa compagne, de recruter l'équipe, Samine Saïd Ahmed et Alaïr Hamadi. Reste une question centrale, essentielle, celle du mobile. Pourquoi Wojciech a-t-il voulu assassiner sa belle-mère ? Brice Robin, le procureur de la République de Marseille, donne la réponse.
Le mobile de ces faits, selon Monsieur Doriak, serait la cupidité, mais il indique que Janowski avait ce projet d'assassiner Madame Hélène Pastor depuis longtemps, car il se sentait rejeté par le reste de la famille Pastor en général, et par Hélène Pastor en particulier. Pour Monsieur Janowski, quant à lui, il affirme qu'il a fait cela pour, dit-il, faire cesser les souffrances de Sylvia Pastor, souffrances que sa mère lui aurait infligées. Réentendue librement, Madame Sylvia Pastor conteste entièrement cette affirmation.
En quelques jours, la vie d'une femme s'est effondrée. Sylvia Pastor, qui a perdu sa mère, apprend que l'homme avec qui elle partage sa vie depuis plus de 20 ans, le père de sa fille, est soupçonné d'être le commanditaire de cet assassinat, et surtout que derrière l'homme qu'elle croit connaître se cache un businessman aux affaires troubles et au passé ponctué de mensonges. Il n'aurait jamais été diplômé de Cambridge comme il le prétend. Tous les mois, Hélène Pastor versait à sa fille 500 000 euros. C'est Janowski qui s'occupait des comptes. Sa femme lui faisait une confiance aveugle et pensait qu'il investissait cet argent dans des œuvres caritatives. En réalité, il s'en servait pour les affaires qu'il mène, notamment en Europe de l'Est. La plupart sont des échecs. Ses investissements dans les matières premières, les énergies renouvelables, les nanotechnologies, aucun n'a abouti. Selon les enquêteurs, derrière son apparente réussite monégasque se cache en fait un homme d'affaires criblé de dettes. Il avait notamment été condamné par un tribunal de commerce en Pologne à payer 22 millions d'euros pour une ancienne raffinerie dont il s'était porté acquéreur. Oui, mais il n'avait jamais réglé la dette. Pour le procureur de la République, il aurait fait assassiner sa belle-mère pour l'argent, pour l'héritage, ne supportant plus de vivre au crochet de sa femme et de la famille Pastor.
On peut s'interroger, ce que font les enquêteurs et le juge d'instruction, sur le véritable mobile de M. Janowski, qui pourrait être, selon nous, la volonté de mettre la main sur l'héritage de Madame Sylvia Pastor.
Et Pascal Doriak, le professeur de sport, pourquoi a-t-il accepté d'organiser le meurtre ? Quelle est donc cette relation de domination qu'il décrit entre lui et le consul polonais ? Tout a commencé au début de l'année 2014. Au départ, c'était des cadeaux, puis l'effacement d'une dette, l'aide pour l'achat d'une voiture, puis les promesses d'une villa, d'une autre vie, du standing. À force de côtoyer les fortunés de la côte, Pascal Doriak a été poussé par la patte du gain, la volonté de se sortir de sa situation, d'avoir plus. Janowski lui promettait tant de choses. Il a donc accepté la proposition tragique de ce dernier. Et puis de son côté, Janowski se plaint auprès de son confident. Il se sent rejeté par sa belle-mère. Il n'est pas considéré au sein de la famille à sa juste valeur, celle de la réussite qui à Monaco n'a qu'un visage, celui de l'argent. Et Janowski ne supporte plus de voir sa femme souffrir. Alors, Doriak le croit et se convainc d'accepter l'inacceptable. À l'issue de la garde à vue, Janowski est incarcéré à la prison des Baumettes, à Marseille. Les policiers sont certains de leur conclusion et les deux hommes, Janowski et Doriak, ainsi que les exécutants, sont mis en examen. Mais quelques semaines après son arrestation, Janowski revient sur sa version. Il nie être le commanditaire de l'assassinat. Selon lui, c'est Pascal Doriak lui-même qui est passé à l'acte, qui a organisé ce crime. Il voulait convaincre la famille Pastor de se payer une protection, et il l'aurait assuré. Car selon Doriak, de nombreuses tentatives d'enlèvement les menaceraient directement. Bialovski, lui, aurait considéré cette proposition comme une tentative de raquette. Il ne cédait pas au chantage de son professeur de sport, qui aurait donc décidé de passer à l'acte. Il conteste aussi l'hypothèse de l'héritage mobile émise par les policiers. Il n'était pas marié à Sylvia Pastor, il n'était donc pas bénéficiaire de cette possible succession. Son avocat explique ce revirement.
Des relations conflictuelles, mais conflictuelles non pas entre lui et sa belle-mère, mais plutôt, à ce qu'il me raconte, entre sa compagne et sa mère. Pas de problème de tension particulière, si ce n'est, mais ça il me l'a dit à plusieurs reprises, et je pense d'ailleurs que ça a été repris par différents articles de presse, une victime omniprésente dans le couple et qui pollue un peu l'atmosphère de ce dernier. Je l'ai trouvé assez affaibli physiquement, puisque j'ai trouvé quelqu'un qui avait du mal un peu à s'exprimer. J'ai surtout noté qu'il avait de grosses difficultés à s'exprimer en français, et d'ailleurs, peut-être qu'il y aura quelque chose à regarder du côté des conditions du déroulement de sa garde à vue, parce que moi je ne sais pas, c'est un monsieur qui est d'origine polonaise, enfin qui est même polonais, et des fois, il y a certains moments, quand je lui parle, il me dit « mais ça veut dire quoi ce que vous me dites ?» Donc je ne sais pas un peu, ça il faudra voir un peu comment ça s'est passé sa garde à vue. Il m'a fait des révélations, et ces révélations, il veut en livrer la teneur au magistrat instructeur quand ce dernier le convoquera. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne m'a jamais, à aucun moment, il m'a dit à être le commanditaire. Je me demande même s'il connaît le sens de ce mot.
En février 2015, une entrevue devant le juge d'instruction oppose les deux hommes, Wojciech Jadowski et Pascal Doria, qui maintiennent leur version. Voilà où nous en sommes. Le procès doit se tenir au début de l'année prochaine et il se concentrera essentiellement sur l'affrontement des deux protagonistes. La justice statuera sur les responsabilités d'un crime qui, le temps de quelques semaines, aura braqué sur les dorures du rocher l'ombre noire du polar.
Tender wish for quiet and numb, tired and out, you're speechless, tired and numb.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Hélène Pastor avec notre invitée Hélène Constanti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans les studios de France Bleu Azur. À Nice, vous êtes journaliste et documentariste et notamment l'auteur d'un dossier sur cette affaire dans la revue dessinée parue à l'automne dernier. Et vous préparez, je crois, actuellement une bande dessinée sur le sujet. Vous en êtes à la fin, au milieu, au début?
Oui, on en est en plein travail avec le même dessinateur qui a travaillé sur le sujet pour la revue dessinée, Thierry Chavant. On va en faire un album qui fera une centaine de pages.
Alors, le procès va bientôt se dérouler, le procès se déroulera. Qu'est-ce qu'on peut en attendre dans la mesure où il y a quelque chose de pas très clair dans cette histoire, et notamment les contradictions entre Doriak et Yanofsky. Est-ce qu'on peut revenir un peu avec vous sur ces contradictions et sur le système de défense de chacun, puisque le procès devra déterminer qui porte la responsabilité de ce crime, de l'un ou de l'autre?
Oui, l'enquête a été réalisée avec célérité hein, par la police judiciaire et c'est vrai que très vite, bien qu'ils ont conservé le secret sur leurs investigations, ils ont très vite remonté la chaîne des exécutants vers les commanditaires. Alors, le gendre d'Hélène Pastor, Wojciech Janowski, a tout d'abord avoué, puis est revenu sur ses déclarations. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Les preuves sont tout de même, les preuves matérielles sont tout de même très nettes. Hein. On a affaire à des tueurs à gages qui étaient des amateurs. Moi, j'avais eu l'impression, en épluchant le dossier, d'être dans un film des frères Cohen. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu des tueurs. Et c'est vraiment deux mondes. Hein. C'est deux mondes qui n'étaient absolument pas faits pour se rencontrer. Vous avez ce monde des milliardaires de Monaco est vraiment à l'autre extrémité du spectre social. Vous avez les bas-fonds de Marseille avec des tueurs à gages comoriens recrutés dans les quartiers nord de Marseille. Et entre les deux, c'est vrai, vous parlez de ce coach sportif, Pascal Doriak, qui lui a beaucoup parlé, s'est immédiatement épanché et apparaît, c'est vrai, comme une sorte de... Il a été fasciné par Janowski. Tout cet argent lui a tourné la tête et il a accepté cette mission. Lui n'est pas revenu sur ses déclarations et c'est vrai, il charge son commanditaire présumé, Wojciech Janowski.
Oui, mais parce que chacun essaie de sauver sa peau maintenant, mais on a du mal à comprendre l'argumentation de Doria qu'il aurait voulu assurer la protection de la famille Pastor, c'est ça, et c'était pas très clair.
Oui, de Janowski, oui, Doria qui est très clair, hein, lui il dit voilà, j'ai été payé pour assassiner Hélène Pastor. Janowski, lui, est beaucoup moins clair et il l'est d'autant moins que il s'est passé quelques épisodes suite à l'histoire telle que vous l'avez racontée. C'est que Janowski a envoyé une de ses parentes donner de l'argent. Hein, cette personne a été arrêtée en flagrant délit en train de remettre de l'argent à un ex-détenu de la prison des Baumettes en échange d'un témoignage. En échange du témoignage de ce détenu qui allait expliquer que c'était bien Doriak, le deus ex machina dans l'affaire. Vous voyez, donc la défense de Janowski a été très très mise à mal par ce nouvel épisode, cette nouvelle péripétie dans l'affaire.
Donc il y aurait eu un commanditaire général, un exécutant organisateur, hein, et puis deux exécutants, c'est un peu les pieds nickelés quand même.
Oui, vraiment, vraiment les pieds nickelés.
C'est quelque chose.
Et c'est vrai que des crimes exécutés par des tueurs à gages, il y en a pas tous les jours, et c'est vrai que c'est assez glaçant de se dire que on peut trouver assez facilement finalement des personnes prêtes à tuer pour 200 000 euros, c'est ce que le commanditaire présumé a sorti de son compte en banque à Dubaï, 200 000 euros pour tuer une femme.
Que pensez-vous de la thèse de l'avocat de Janowski qui explique que son client n'aurait pas vraiment compris le terme de commanditaire vu que le français n'est pas sa langue maternelle? Il a pourtant refusé, ce même monsieur, un traducteur au cours de sa garde à vue. Ça tient pas beaucoup, ça?
Non, ça tient pas trop la route. C'est un homme qui vit à Monaco depuis un quart de siècle, qui est mondain, qui parle parfaitement le français. Non, ça c'est une idée trouvée par l'avocat pour essayer de démonter une des pièces du dossier, mais ça ne tient pas tellement la route.
Alors par ailleurs, d'autres rebondissements ont eu lieu par la suite et après notre récit avec notamment, je crois, une avocate polonaise qui se serait retrouvée impliquée. Expliquez-nous.
Voilà, c'est ça, c'est l'histoire que je vous racontais.
Ah, c'est ça, d'accord.
Cette parente de Janowski qui a été surprise en flagrant délit en train de remettre une enveloppe pleine de billets à l'homme qui a fait des déclarations allant dans le sens de Janowski et accablant le coach sportif Pascal Dauriac.
Cette affaire est surprenante à plus d'un titre. D'abord parce que elle concerne Monaco, qui n'est pas connu pour ce genre d'histoire. Alors vous avez dit qu'effectivement il y a deux mondes qui se sont rencontrés dans cette histoire, qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Vous dites le spectre social, les riches d'un côté, et puis les petits délinquants de Marseille. À Monaco, qu'est-ce qu'on en dit de cette affaire-là? Elle est gênante pour la réputation de
Monaco,
la principauté.
Monaco, c'est un endroit très particulier dans lequel il est particulièrement difficile d'enquêter, d'ailleurs en tant que journaliste, puisque personne ne parle ouvertement, personne ne s'exprime officiellement. En revanche, c'est aussi le pays de la rumeur, des ragots, de la médisance. C'est un tout petit pays, Monaco. Il faut imaginer que c'est 2 km². Vous avez là 37 000 habitants, c'est peu, dont seulement 9 000 monégasques, hein, détenteurs de cette précieuse nationalité. Et donc, c'est des gens, il y a une partie de gens qui mènent des vies normales et ordinaires, mais il y a aussi énormément de personnes richissimes qui vivent dans un monde quand même... On a du mal à imaginer la vie que ces personnes mènent. Hélène Pastor, bon, qui est la femme la plus riche de Monaco, hein, une fortune estimée à 12 milliards d'euros, cette dame donnait à chacun de ses enfants 500 000 euros par mois, donc un demi-million. Et un demi-million, bah, visiblement, ça n'était pas suffisant pour son gendre. Une personne que je voyais là-bas me disait, mais un demi-million à Monaco, mais c'est une chouquette.
Ouais, mais enfin, vous dites, par rapport, apparemment, c'était pas suffisant pour Janowski, mais j'ai cru comprendre qu'il était criblé de dettes et qu'il avait d'énormes besoins, ça peut expliquer.
C'est ça, voilà, on a découvert au cours de l'enquête que il avait une sorte de double vie, qu'il avait fait des investissements hasardeux en Pologne, qu'il avait hypothéqué des biens. Sa femme Sylvia lui faisait une confiance aveugle pour gérer l'argent donné par sa propre mère. Et c'est vrai que, voilà, on imagine cette femme, comme vous le racontiez très bien, se retrouver ayant perdu sa mère et découvrant que l'homme dont elle est passionnément amoureuse, parce que je crois qu'entre eux, vraiment, c'est une belle histoire, que cet homme l'a trahie, lui a menti, l'a arnaquée pendant toutes ces années. C'est assez vertigineux.
Quelle famille, dites-moi, la famille Pastor, famille historique de Monaco, saga historique et financière de Monaco. Monaco, c'est cela, c'est c'est plusieurs familles comme ça qui tiennent le rocher, si j'ose dire.
C'est aussi moi ce qui m'a intéressé au-delà du fait divers qui est passionnant, une affaire de un crime familial avec des commanditaires absolument inattendus. C'est aussi tout ce que ça nous révèle des piliers sur lesquels repose la principauté de Monaco, sur lesquels repose le pouvoir, sur lesquels repose l'économie de Monaco. Beaucoup de personnes finalement ne connaissent que l'image que donnent les magazines, les revues People. Même visuellement, on visualise assez bien le rocher, le palais princier, qui ressemble comme ça à un Disneyland, un peu rose, un peu bien léché, au bord d'une mer bleue marine. Mais lorsqu'on y va, on est absolument surpris de voir que c'est d'abord des immeubles immenses, de 30, 40 étages, qui sont un front de mer... Vu de l'extérieur, c'est des constructions des années 60, pas très jolies, et qui se louent des fortunes. Et cette famille Pastor illustre bien ça. C'est l'économie, la base de l'économie de la principauté, ça a été l'immobilier. Ça a été une spéculation immobilière effrénée dans laquelle la famille d'Hélène Pastor a joué un rôle capital, et notamment lorsque son père, Gildo, dans les années 60, a fait un coup de maître. Il a obtenu les droits de construire tout un nouveau quartier qui part du casino de Monaco jusqu'à l'est, hein, jusqu'à la limite de la principauté. Et là, il y a un mur de béton en front de mer, avec des appartements qui donnent tous au sud et qui se louent extrêmement cher et qui appartiennent à la famille Pastor. C'est tout à fait voilà, quand on arrive pour la première fois à Monaco, on est très très surpris, même visuellement, de à quoi ressemble cette principauté et comment vivent les gens, aussi avec tout un réseau d'autoroutes souterraines. Il est quasiment impossible de se déplacer à pied. On roule dans des voitures de luxe. Moi, je n'ai jamais vu autant de Bentley, de Ferrari, de voitures de sport absolument improbables qui circulent dans cette ville. C'est vraiment un monde à part, Monaco.
Est-ce que les Pastors avaient fait main basse sur l'immobilier de Monaco ou est-ce qu'ils avaient des concurrents ?
Alors c'est vraiment la famille qui domine de façon absolument écrasante la principauté de Monaco. Vous avez bien décrit le fait que à la mort de Gildo, ses trois enfants se sont partagés l'empire, avec donc chacun des immeubles à gérer. Et puis l'un des frères qui est aujourd'hui décédé, mais dont les fils continuent
le business,
lui est vraiment un constructeur. Et notamment, c'est lui qui est aujourd'hui le principal opérateur d'un nouveau projet absolument pharaonique qui est en train de se réaliser à Monaco, où le territoire est étroit, 2 km², il n'y a plus de place pour construire. Donc on va faire une extension en mer. On est en train, là, avec Bouygues comme opérateur, de couler du béton en mer, et tout un nouveau quartier va être comme ça construit et gagné sur la mer à Monaco. Donc l'immobilier et la famille Pastor continue vraiment d'être au cœur du réacteur de ce qui fait la richesse et l'économie de Monaco.
Alors la famille Pastor a connu ce drame. Était-elle une famille soudée avant le drame ? Parce qu'évidemment, après le drame, ça crée des failles, hein, quelque chose comme ça. Mais avant, c'est une famille soudée ou entre les différentes branches, il y avait de la concurrence,
non,
des rancœurs ?
Non, c'est une famille, oui, c'est une famille compliquée. Voilà, on imagine aussi que quand il y a beaucoup d'argent en jeu, ça peut créer des tensions. Hein. J'imagine que beaucoup de nos éditeurs ont connu ça dans leur propre famille. Au moment des héritages, c'est parfois compliqué à gérer, ça peut créer des dissensions entre frères et sœurs, et ça a été le cas au moment de la mort de Gildo, lorsque ses trois enfants se sont partagés le pactole, le magot immobilier. Ils se sont quand même partagés plus de 500 000 mètres carrés à Monaco, d'une valeur à l'époque de 20 milliards d'euros. Et donc ces trois branches ont des relations très compliquées les unes avec les autres. C'était d'ailleurs une des pistes, hein, bien sûr, qui avait été creusée par les enquêteurs, les querelles, les rancœurs, les animosités au sein même de cette famille Pastor.
Alors cette histoire nous plonge, bon, on l'a dit, on s'en aperçoit dans les coulisses de Monaco, au-delà de ce qu'on peut voir de cette principauté. On va écouter le prince Albert en 2005, hein, au moment des célébrations de son couronnement. Il donne justement le cadre politique général de la principauté.
J'entends cependant que l'éthique soit toujours en toile de fond du comportement des autorités monégasques. L'éthique ne se divise pas. Argent et vertu doivent se conjuguer en permanence. L'importance de la place financière de Monaco requiert une extrême vigilance pour éviter que ne se développent des activités financières qui ne sont pas les bienvenues dans notre pays.
Voilà, qu'en pensez-vous ?
Ben, y a toujours, c'est vrai, ce rapport à l'argent qui est particulier. Moi, j'ai écrit dans le dossier que pour moi, Monaco est un paradis fiscal. Alors
oui.
Après, il y a différentes définitions du terme de paradis fiscal, mais ben, c'est tout de même un endroit où les titulaires de la nationalité monégasque, également les Italiens, hein, même si les Français n'y ont pas droit, on ne paye strictement aucun impôt. Donc, si les gens sont prêts à payer des loyers totalement délirants à Monaco, c'est aussi pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur les successions, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, il n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas de taxe d'habitation, il n'y a strictement rien. C'est le vrai paradis des riches.
Jean-Marie Perrier, le célèbre photographe français des stars françaises, d'ailleurs comme britanniques dans les années 60 et 70, a écrit un livre de souvenirs fort intéressant. Et il écrit dans son livre cette phrase « Monaco, étrange endroit où l'on voit des foules défiscalisées arpenter des trottoirs nettoyés au coton-tige ». Qu'est-ce que vous pensez de cette formule formidable?
C'est tout à fait ça, c'est l'argent. Alors les deux piliers, c'est aussi pour ça que l'assassinat d'Hélène Pastor a traumatisé les Monégas, c'est que ça ébranlait aussi l'un des piliers sur lesquels repose la prospérité de cette principauté, c'est la sécurité. C'est que toutes ces personnes viennent là pour mettre leur argent à l'abri du fisc, mais aussi pour être en sécurité, pour pouvoir se promener dans les rues le soir, aller au casino avec des rivières de diamants, pour voir sortir ces belles cylindres sans risquer de se les faire égratigner par un malveillant. C'est un État extrêmement policier, extrêmement surveillé. C'est pour ça que les tueurs à gages n'ont pas opéré en principauté, mais à Nice.
Ça dit à Nice, c'était pas mal non plus. En termes de surveillance et de caméras, c'est pas mal non plus.
Hein. Beaucoup de caméras, mais enfin, à côté de Monaco, c'est quand même petit pied. À Monaco, vous avez un policier pour 70 habitants. Vous avez une caméra, pareil, pour à peu près le même nombre de personnes. Faites l'expérience à Monaco. Moi, je l'ai faite. J'y vais en scooter. Garez-vous sur un trottoir en scooter à Monaco. Dans la seconde, vous n'avez même pas le temps d'enlever le casque et de le mettre dans le coffre. Un policier arrive et vous demande d'aller vous garer ailleurs. Donc c'est un état vraiment extrêmement surveillé, dans lequel d'ailleurs tous les policiers sont français. Hein, tous les chargés de la sûreté publique sont français, de même que les carabiniers qui assurent la défense militaire sont tous des militaires français.
C'est une délégation de service public, si j'ose dire.
Voilà, ben en tout cas, il faut être français. Alors, ça a l'apparence d'une monarchie héréditaire dans laquelle la famille princière a le pouvoir, mais en réalité, les Français contrôlent tout. Tous les leviers du pouvoir régalien à Monaco, c'est les Français. La défense, la police, la justice, pareil. Hein, la justice, c'est les deux tiers des magistrats de Monaco sont français. Vous avez le principal chef d'État, qu'on appelle le ministre d'État, qui préside le Conseil du gouvernement, c'est également un Français. Actuellement, c'est Serge Tell, l'époux d'une journaliste de France 2, Guylaine Chenu.
D'accord. Le prince Albert, qu'on a entendu tout à l'heure, parlait de transparence. Alors, on a presque envie de sourire. Hein. Monaco n'est pas l'endroit où la transparence est la plus évidente. Il y a toujours autant d'opacité aujourd'hui. Je pense aussi à la mafia russe, par exemple.
À opacité, oui, complètement. Il est très difficile, enfin il est même impossible en fait, hein, de savoir qui possède quoi à Monaco. J'ai essayé de savoir quelle était la fortune de la famille princière. C'est évidemment secret absolu. Vous avez par exemple un détail tout bête, mais l'équivalent du cadastre. En France, lorsque vous voulez savoir qui possède telle parcelle ou telle maison, vous vous rendez au service du cadastre et tout ça est parfaitement transparent et officiel. Vous savez qui possède quoi. À Monaco, ce n'est absolument pas le cas. Le cadastre est secret. Il est impossible de savoir qui possède cette jolie villa estimée à 50 millions d'euros sur le rocher en face du palais princier. Vous voyez, tout est à l'avenant. En matière économique, c'est tout à fait la même chose. Il y a un jaloux secret qui est conservé sur les activités économiques. Et c'est vrai que ça, voilà, le secret engendre la rumeur, le secret crée le doute. Donc ça participe aussi à ce climat un peu de fantasme. C'est vrai que lorsque Hélène Pastor est assassinée, tout de suite, la rumeur, c'est la mafia russe. Voilà, ah bah oui. Ça entretient, le secret entretient le fantasme.
Alors, le procès sera la dernière chose. Hein. Le procès donc se tiendra en début d'année prochaine, c'est bien cela, début 2018.
Oui, sans doute, oui.
Ouais. Ce sera aussi le procès de Monaco, quelque part.
Peut-être. Je pense que du point de vue de la justice, hein, voilà, on va juste essayer de savoir, qui a tué, qui a fait tuer Hélène Pastor. Mais derrière, c'est vrai que ce qui sera intéressant, c'est de comprendre quel est l'arrière-fond, quelle est la toile de fond sur laquelle s'est joué ce drame familial. Hein.
Très bien. Merci en tout cas, merci infiniment pour toutes ces précisions et la connaissance que vous avez de ce dossier, Hélène Constantin. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Hélène Pastor, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous sur la page Facebook d'Affaires Sensibles, évidemment, et comme d'habitude. Merci à Stéphane Beaujean, qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'affaire Mohamed Merah, dont le procès se tient en ce moment même.